Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
On est en début d'année. Et nous avons eu l'opportunité de nous souhaiter les meilleurs vœux et tout cela. D'habitude, en début d'année comme ça, j'ai un message vision. Je vais le donner, le message de la vision. Mais Dieu a mis dans mon cœur ce message ce matin, réveil, réforme. Ceci va faire toute la différence dans notre Église ici, mais ceci va faire la différence aussi dans vos vies. Parce que la différence que nous avons ou la différence que nous pouvons faire dans la communauté ou dans nos vies ont tout à voir avec la compréhension de la nuance entre le réveil et la réforme. Dieu m'a montré que beaucoup de chrétiens vivent dans le réveil, mais peu veulent être réformés. Et Dieu m'a dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se réforme en soi, « cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. » Il a dit « peut-être ». Il dit « je l'exaucerai des cieux. » Alors, nous allons aller ensemble chercher le cœur de Dieu. Et je sais que Dieu, la présence de Dieu est ici présente ce matin. Et je sais que Dieu va toucher chacun de nos cœurs ce matin. Sans plus tarder, on va aller ensemble dans la définition du mot « réveil ». Dans le dictionnaire Larousse, et je m'excuse, c'est un peu petit, mais en tout cas pour ceux qui peuvent lire, ceux qui ont des bons yeux, je n'avais pas réalisé comment petit c'était. C'est le fait de se réveiller, vous pouvez vérifier vous-même, je vous assure que c'est dans le Larousse. C'est le fait de se réveiller, de passer du sommeil à l'état de veille. Vous savez, quand tu te réveilles le matin, si tu ne vas pas au travail, ça ne va rien changer à ta vie. Donc, le fait de se réveiller, c'est bien, c'est un bon commencement. Ce matin, nous avons eu l'opportunité chez les Diafilas d'avoir un réveil un peu, ce que je dirais, un réveil spectaculaire. C'est-à-dire, tu regardes ton alarme, tu réalises qu'il est 3 heures du matin, tu dis, oh, j'ai encore 2 heures de sommeil. Et là, la prochaine fois que tu ouvres tes yeux, tu réalises qu'il est peut-être 6h30 ou 7h, pendant qu'on est habitué de se lever un peu plus tôt chez nous à la maison. Alors, le cœur commence à battre et on se dit, on va être en retard et il y a beaucoup d'actions qui se passent à la maison. Mais nous nous sommes réveillés. Alors, quand tu te réveilles, ce n'est pas tout. Une fois que tu te réveilles, il faut faire des actions. Nous sommes venus vers l'église, nous avons séparé plus ou moins la famille dans 2 véhicules pour que Caleb puisse arriver ici à temps et que je puisse arriver ici de bonne heure. La même chose avec Pierre qui vient de Montréal. Je suis certain qu'il s'est réveillé pas mal plus tôt que chacun d'entre nous ici. Alors, le Larousse dit aussi que le réveil, c'est le fait pour quelque chose de revenir à l'activité après une période d'arrêt et de repos. En littérature, c'est l'action de sortir de son aveuglement et de reprendre conscience de la réalité. C'est la période qui se situe entre la fin de l'anesthésie générale, pour ceux qui ont été opérés, et quand on est ramené dans la chambre. Et pour ceux qui aiment leur réveil matin, c'est aussi une machine que nous aimons beaucoup matinalement. La réforme, à la différence du réveil, la réforme, c'est un changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution et visant à améliorer son fonctionnement. Radical, changement radical. Et c'est une action de retirer du service un véhicule ferroviaire pour une révision de réparation, ce qui ne s'applique pas pour nous. C'est une opération par laquelle un militaire atteint d'une affection où on change son rôle, au lieu d'être un caporal, on le démet de ses fonctions parce qu'il est atteint d'une maladie ou il y a certains défis. Donc, la réforme peut être positive tout comme elle peut être négative. Alors, aujourd'hui, le cœur de Dieu, au travers de ce passage de Jean 5, m'a emmené à étudier cette différence que Jésus a pour nous entre la réforme et le réveil. Mais non, ici, je ne veux pas seulement séparer ces deux mots. On va voir que ces deux mots sont importants. C'est important de se réveiller. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà eu l'opportunité d'aider quelqu'un. Mais moi, dans ma courte vie, j'ai eu l'opportunité, j'ai cette passion, c'est les gens. Ça a toujours été ma passion. Avant même d'être pasteur, j'ai toujours aimé aider les gens. Et peut-être j'ai eu ça un peu de ma famille. Mes parents, c'est des gens, on a souvent eu, comme je vous ai raconté la semaine passée, pourquoi je priais avec un œil ouvert. C'est parce que la télévision avait disparu. C'est parce qu'on aidait les gens, et puis des fois, tu priais avec des gens qui n'étaient pas très honnêtes, et la télévision partait. Alors, aider les gens a toujours été quelque chose de passionnant dans la famille Diafuila. Et il m'est arrivé d'aider les gens, et quand ils sont avec moi, il n'y a pas de problème. Ils font tout, ils vont au travail, et ils aiment leur travail, ils sont disciplinés, ils vivent une vie de pureté, mais la minute qu'ils sortent de notre rôle plus ou moins de mentor et qu'ils peuvent maintenant aller retourner habiter eux-mêmes, des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre ce qui leur a été donné et tu entends deux mois, trois mois après, pour certaines personnes, « Oh, il est retourné dans son addiction. » Pour certaines personnes, tu entends que c'est des mauvaises habitudes. Pour certaines personnes, tu entends même que la personne que tu as aidée est après te détruire et est après parler du mal de toi. Et Dieu m'a mis à cœur ce verset de Jean 5 qui est beaucoup enseigné, c'est un verset de miracle, mais c'est un verset où est-ce que Jésus guérit quelqu'un et la guérison fonctionne, mais la vie de cette personne-là n'est pas transformée. Cette personne a été réveillée par Jésus, mais cette personne n'a pas été réformée. Et nous allons voir aujourd'hui que le réveil est un acte de grâce, mais la réforme, c'est notre réponse à la grâce de Dieu. Allons ensemble dans Jean 5, nous allons lire quelques versets, ensuite nous allons décortiquer ce passage. Jean 5, 1, il est écrit « Après cela, il y eut une fête des Juifs ». Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portes. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, « un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit ?» et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. C'est un texte très riche. La première des choses que je vois ici, c'est que Jésus n'a aucune gêne d'agir et de déranger la tradition de l'être humain. Il y avait une tradition, la tradition du sabbat. En Galilée, il y avait un événement pour lequel Jésus était là. Le verset nous dit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monte, on dit après cela, après la guérison, pour ceux qui suivent avec nous l'étude du livre des Jean, c'est après la guérison du fils de l'officier. Et après cette guérison, Jésus retourne vers Jérusalem. Nous savons que Jésus a fait un grand ministère en Galilée. Nous pouvons le voir dans les évangiles synoptiques. Nous voyons, par exemple, dans Luc 4, 16, le rejet à Nazareth. Dans Matthieu 4, 23, la prédication. Dans Marc, nous voyons encore l'homme possédé d'un esprit impur. Nous voyons la belle-mère de Pierre dans Matthieu 8, 14. Et le lépreux dans Luc 5, 12. Nous voyons une série d'événements. Après cette série d'événements, Jésus va monte à Jérusalem. Et nous avons appris la semaine passée que quand la Bible dit monter, c'est vraiment monter. Quand on vient de Galilée, on arrive à Jérusalem, au niveau géographique, c'est comme si on montait. Et Jésus monte vers Jérusalem, arrive à Jérusalem pour une fête des Juifs. Nous avons vu que Jean est précis dans nos études bibliques les mercredis. Nous savons que Jean, d'habitude, quand il dit une fête, la prochaine phrase va être d'expliquer quelle est cette fête. Mais dans ce passage, nous n'avons aucune explication sur quelle était la fête. Peut-être est-ce parce que cette fête n'a rien à voir vraiment avec cette histoire. Mais nous savons que ça ne pouvait être qu'une de ces trois fêtes, soit la Pâque, la fête des tabernacles ou la Pentecôte. Parce qu'à ces trois fêtes, les hommes juifs étaient priés de se rendre à Jérusalem. Donc nous savons que Jésus devait se rendre à Jérusalem. Donc Jésus respectait la loi de Dieu. Jésus, nous savons qu'il était imprégné de cette loi de Dieu. Nous savons que Jésus nous recommande de suivre les voies de Dieu. Un peu comme vous ce matin, vous êtes à l'église, vous êtes dans la maison de Dieu, parce que vous savez que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose pour vous. Nous savons aussi que dans Deutéronome 16, il est écrit à partir de Deutéronome 16 que trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Aujourd'hui, ça n'aurait pas été un message très populaire. Hein? Donc, en d'autres mots, je vous dirais la semaine prochaine, venez, mais ne venez pas sans rien. Ouh, pasteur! On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Donc, Jésus avait quelque chose. Il a emmené quelque chose dans le temple. Et Jean 5, 2 continue par nous dire, « Oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine. » Ici, je vais m'arrêter un peu pour dire Bethsaida. Vous nous avez souvent entendu peut-être Bethsaida, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de Bethsaida, mais Bethsaida veut dire maison du pain ou maison de la miséricorde. La miséricorde, house of mercy. Et moi, je voyais un peu l'église, la maison de la miséricorde, la maison, le lieu. Quelle que soit la corruption du système qu'il y avait dans le temple, c'était le lieu de la miséricorde. Le lieu où est-ce qu'on allait pour la guérison, le lieu où est-ce qu'on allait pour la restauration, le lieu où est-ce qu'on allait pour retrouver l'espoir. Et ces paralytiques se trouvaient dans ce lieu. Une autre chose qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il y avait des portiques. Donc, c'est un lieu qui était couvert. C'est un lieu où est-ce qu'on pouvait se réunir et se retrouver loin des intempéries. Quand on pense aussi au terme « piscine », Nous allons voir ensemble ce passage veut dire par piscine, parce que plusieurs d'entre nous, on peut penser à une grosse piscine où est-ce que nos athlètes olympiques vont nager, mais vous savez, si les paralytiques rentraient là-dedans, ce n'était pas creux. Alors, cette maison était une maison de miséricorde, une maison de bonté qui incite les gens à l'indulgence, comme on dirait dans le Larousse. La miséricorde, cette corde qui est lancée à notre misère, elle nous incite à l'indulgence, au pardon, à aider les gens. En théologie, la miséricorde divine est la bonté de Dieu qui pardonne nos fautes. Martin Luther, le réformateur allemand, a dit ceci. Qu'est-ce que servir Dieu et faire sa volonté? Rien d'autre que de montrer de la miséricorde à son voisin. car notre voisin a besoin de notre service. Dieu dans le ciel n'en a pas besoin. La miséricorde, pour nous aujourd'hui, c'est nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, vêtir les personnes nues, accueillir les étrangers, visiter les malades, annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers. Je suis content d'entendre des gens qui sont en vacances, mais qui envoient leur dîme à l'Église. Parce qu'ils comprennent que cette maison a besoin d'eux. Je suis content, la dernière semaine du mois de décembre, je ne vous dirai pas le montant, mais il y a quelqu'un qui est de son lieu, qui a pris à cœur l'Église Nouvel Espoir et qui a fait un des plus gros dons que nous avons eu au travers de l'Internet. Je vous encourage, cette maison avance par les dons. Nous avons vu la semaine passée que les abeilles, une abeille fait juste une cuillère à thé de miel par année, mais que plusieurs abeilles ensemble, ce n'est pas rare de trouver dans une ruche plus de 40 kg de miel. Nous savons que quel que soit votre don, il est important. Il est important dans sa maison. Alors, pour nourrir les affamés, pour abreuver les assoiffés, pour vêtir les personnes, pour accueillir les étrangers, c'est pour cela que les gens dans cette maison de miséricorde venaient avec quelque chose. La miséricorde spirituelle, c'est conseiller ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, endurer les injures, endurer, prier pour le prochain. J'ai commencé un nouveau genre de prière. Vous savez, il y a des gens qu'on aime, mais je lisais ma parole et Dieu, le Saint-Esprit, m'a parlé dans ma lecture parce que Jésus nous dit de prier pour nos ennemis. Priez pour vos ennemis. Et là, tout à coup, j'ai dit, waouh, Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Ce n'est pas que vos ennemis sont devenus vos amis, là. Et il y a une profondeur là-dedans. C'est que Jésus reconnaît qu'il y a des gens dans vos vies qui vont être vos ennemis. Il reconnaît qu'il y a des gens avec lesquels vous allez moins bien vous entendre. J'étais dans la présence de Dieu, dans la prière, et Dieu seul sait que si tu fais quelque chose dans la vie, tu vas avoir des ennemis. Et je commençais à prier. Je priais pour des gens qui disent certaines choses. Je priais pour des gens qui peut-être, à un moment, j'étais attaché à eux, et aujourd'hui, je vois peut-être un comportement d'eux, et peut-être on peut être blessé, on est humain. Et je priais pour eux. Et quand je priais, je disais, Seigneur, oh, Seigneur, j'ai du mal avec lui, émotionnellement. Seigneur, il m'énerve, Seigneur. Mais Seigneur, je l'aime et je prie pour lui qu'il soit béni. Et tout à coup, on sent une certaine liberté. On sent l'Esprit de Dieu qui vient dans le lieu secret. L'Esprit de Dieu va venir te rencontrer. Quand tu pries de cette manière-là, pour ça, on dit endurer les injures. Tu ne peux pas endurer les injures si tu ne pries pas pour tes ennemis. Ce n'est pas possible. Mais quand tu pries, quand tu bénis tes ennemis, tout à coup, tu deviens béni, comme le dirait un pasteur que j'aime beaucoup, béni par leur absence. Priez pour le prochain. Priez pour les morts. Priez. Pas prier pour les morts dans le sens de prier aux morts, mais priez pour ceux qui vivent un deuil. Priez pour ceux de vos familles. Il y a des gens qui ont vécu des circonstances néfastes. Est-ce que vous priez pour ces gens-là? Il y a beaucoup de changements qui arrivent quand quelqu'un part. Aujourd'hui, nous savons que la majeure partie des familles se divisent autour des testaments. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps en Amérique du Nord où est-ce qu'il y a une crise de famille. Il y a des meurtres, des disputes autour de l'argent. Priez les uns pour les autres. Et c'est sous ces portiques, Jean 5, 3, qu'était couché un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Maintenant, Jean 5, 4 nous donne une explication, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Il y a une grande discorde sur ce verset. Certains théologiens disent que les manuscrits les plus anciens omettent cette proposition. Certains vont jusqu'à avancer qu'il y a dans ce passage à peu près une douzaine de termes que Jean n'a pas utilisés dans l'Évangile, donc que ça aurait été ajouté plus tard. Tertullien, lui, qui a vécu une centaine d'années, à l'an 150 après Jésus, lui a raconté cette rumeur. Il y avait une rumeur qui disait que dans ce lieu-là, parce que Bethsaida, ou cette piscine, est un lieu que quand on a détruit Jérusalem à 70 après Jésus, C'est un lieu qui n'avait pas été détruit. Et les pèlerins pouvaient voir ce lieu-là encore. Et nous avons Tertullien qui nous rapporte, Tertullien qui est tunisien de Carthage, qui nous rapporte les dires que dans ce lieu-là, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une rumeur selon laquelle un ange venait et bouillonnait l'eau et les gens sautaient. Donc, vous allez dire, c'est donc bien bizarre, ils ont des croyances bizarres. Faites attention, on va voir ensemble que nous avons des choses que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui en 2013 qui arrivent. Et celui qui descendait le premier, dit la Bible, était guéri. Nous pouvons voir à la prochaine image, à la prochaine diapo, ici un peu comment était la piscine, où est-ce qu'elle était disposée, comment elle était couverte. À la prochaine image, nous avons aussi un peu un plan de la piscine. On ne peut pas le voir de loin, mais l'eau est rougeâtre. C'est pas du chlore. Et on n'allait pas là pour se baigner et voir de l'eau claire. C'est de l'eau rougeâtre. C'est une piscine, mais ce n'est pas une piscine comme vous la connaissez. À la prochaine image, nous avons aussi ce qui reste, où est-ce qu'on pense qu'est Bethsaida à l'heure actuelle. Et ici, l'Esprit de Dieu me parlait sur le miracle. L'Église de Dieu doit croire au miracle. Oui, il y a des choses qui arrivent, qui sont spectaculaires. Il y a des choses, il y a des débordements. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un faux billet que tous les billets sont faux. Le miracle de Dieu existe. Mon dictionnaire, le dictionnaire Larousse, dit que le miracle, c'est un phénomène interprété comme une intervention divine. C'est un fait, un résultat étonnant, extraordinaire, qui suscite de l'admiration. Quelque chose d'extraordinaire, là, soyons sincères, qui est un fait étonnant et dur à expliquer. C'est une chose merveilleuse en son genre. Certains diraient, même dans le Larousse, que c'est un hasard merveilleux. J'ai été quelque part avec une aide financière juste pour calculer certains chiffres il y a quelques mois. Et quand on faisait ces calculs, il s'est adonné que la majeure partie de mes chiffres étaient ronds. Et il dit, « Ah, tu as donc bien de la chance! » Et moi, j'étais devant lui et je dis, « Ah, j'espère que j'ai de la chance parce que je crois en Dieu. Donc, je suis béni, j'ai plus que de la chance. » Et c'est juste pour dire que même le miracle surprend même l'homme qui ne va pas à l'église. Il va dire, « Il y a quelque chose qui arrive. » Elle est en apposition. Elle indique que quelque chose est inattendu. Dans la prochaine image, ce que vous allez voir, c'est un miracle qui est arrivé dans la vidéo qui est là. Un miracle qui est arrivé, quelqu'un qui a été miraculeusement sauvé d'un accident de voiture. Et c'est dans la vidéo qui est juste en bas pour le technicien de son. Juste en bas, il y a une vidéo qui est écrite « Woman ». C'est parfait, juste de passer la vidéo j'aimerais qu'ensemble...
Let's get started in Pueblo, Colorado this morning, where torrential rains led to flash flooding on Saturday, and an SUV driver tried to make her way through, but she got stuck, and as the waters rose, the driver couldn't escape. NBC's John Larson picks up the story from there.
What no one knew about 35-year-old Charlene D. Herrera as her SUV was slowly swept towards deeper water was that Charlene, just coming home from work, still in her Wendy's uniform, trapped inside, couldn't swim. Which explained why she called her brother on her cell phone, instead of just saving herself like almost everyone here, horror-struck and watching, was hoping she'd do. In sickeningly slow motion, with all four car windows shut tighter than a drum, Charlene and her car slipped into water about 10 feet deep and sank. The first to reach her was a doctor, but try as he did, that stick he had was no match for the safety glass.
I was pounding away, and she had her hands against the glass, and she was terrified.
And then, Charlene was gone. Almost a full minute went by, but unbeknown to everyone was that Howard Absetz, a 43-year-old unemployed store manager, the man in the middle, had somehow reached through Charlene's front window.
For me to actually feel her grasp my arm was a real shock. And then the second time that she grasped my arm, I knew right then that I could get her out.
And then up she came. Of course, no one knew Charlene couldn't swim, and there was a moment coming up here where she almost drowned the good doctor. But everyone eventually dragged Charlene to safety. But here's the odd part. When Charlene's car was towed from the water, all four windows were still closed. How they opened just enough to let her out and then closed again, no one knows.
There was something there. I can't explain it, but something happened for her to be able to be alive today, for me able to pull her out. Something happened for that to happen.
Something Charlene and Howard and everyone here is still wondering about. For today, John Larson, NBC News, Los Angeles.
Il y a quelque chose qui est arrivé qu'ils ne peuvent pas expliquer. Alors, pour ceux qui n'ont pas vraiment compris en anglais, qui ont un peu de difficulté en anglais, qu'est-ce qui arrive? Cette dame a un accident, elle ne sait pas nager, elle appelle son frère sur son cellulaire en disant « j'ai besoin d'aide » parce qu'elle sait que si elle sort, elle va se noyer, elle panique. Et là, il y a un médecin qui voit la voiture, qui saute dans l'eau, essaie de casser les vitres, mais avec le bâton qu'il avait, n'arrive pas à le faire. Et finalement, il y a d'autres personnes qui viennent aider. Et une des personnes qui vient aider pour une raison ou pour une autre est capable de la prendre au travers de la fenêtre et de la sortir. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on a ressorti la voiture, ils ont réalisé que toutes les fenêtres sont fermées. Et ils n'arrivent pas à expliquer, même la personne qui est sortie n'arrive pas à expliquer comment elle est sortie et comment la fenêtre s'est refermée et que la voiture a toutes les fenêtres fermées. Et à la fin, ils disent, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a une intervention de quelque genre. Croyez-le ou pas, c'est dans les temps modernes, il arrive des fois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et Dieu agit encore aujourd'hui, en 2013-14. Vous voyez, je suis encore en 2013. En 2014, je voulais savoir si vous m'écoutez. De manière inexplicable. Et c'est ça le miracle. Et moi, quand je me suis arrêté là, j'ai vu tout ce que les théologiens disaient, c'est super. Mais le texte dit qu'il y a quelque chose qui arrivait. Il y a quelque chose qui arrivait dans ce lieu. Il y avait quelque chose d'inexplicable qui faisait que quand quelqu'un arrivait là, sautait dans l'eau, il y avait peut-être une personne qui a été guérie. Et de cette histoire-là, il y a beaucoup de malades qui se sont mis autour de ce lieu-là pour recevoir une guérison. Peut-être que vous n'avez jamais été malade d'une maladie peut-être terminale ou d'une maladie qui vous cause de la peine, mais quand vous avez vraiment mal, vous avez besoin d'une solution. Et ici, nous sommes dans un contexte où est-ce que toutes ces personnes qui sont autour de ce lieu recherchent une solution, recherchent la guérison. Et Jean 5,5 continue par nous dire que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça ne nous dit pas que cet homme a été malade de naissance, ça dit depuis 38 ans, cet homme a souffert. Et Jésus l'ayant vu coucher, sachant, parce que Jésus savait toutes choses, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et c'est allé me chercher, parce que, on sait que cette personne-là, premièrement, n'est pas née malade. On sait que cette personne a vécu 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance. On sait que Jésus savait que cette personne avait vécu 38 ans de maladie. Mais Jésus ne commence pas par dire « sois guéri ». Jésus dit « veux-tu être guéri ». Jésus disait des choses qui aujourd'hui énerveraient plusieurs personnes. Jésus disait aux morts « sors de ta tombe ». Tu parles à un mort, tu dis « sors de ta tombe ». Jésus disait « lève-toi et marche » au paralytique. Le paralytique, un paralytique de naissance, Jésus lui dit « lève-toi et marche ». Pourquoi tu vas lui dire « lève-toi et marche », il ne peut pas fonctionner, ses jambes ne peuvent pas fonctionner. Et c'est comme si Jésus savait qu'il avait le pouvoir, mais cherchait toujours la volonté de l'homme. Il allait chercher toujours cette volonté. Et dans le psaume 139:1-4, David l'exprime comme ceci, « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assise, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Il sait votre douleur, il sait vos soucis, il sait ce que tu as vécu. Il sait tout ce que tu as comme réservation ou de choses qui te dérangent. Je ne peux pas penser à une chose que l'Esprit de Dieu ne sait pas. Il connaît ton découragement. Il connaît quand tu es heureux. Il sait l'aide que tu pourrais avoir besoin. Il sait ce que tu peux être en train de faire face aujourd'hui ou demain. Et cet homme n'a pas été pris au dépourvu. Ou plutôt, Jésus n'a pas été pris au dépourvu par la peine de cet homme. Il n'était pas inquiet, surpris par son état. Pourtant, la question qu'il voulait savoir, c'est « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? » Et encore aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta circonstance, et Jésus est en train de te dire « Veux-tu t'en sortir? » Jésus m'a dit « Veux-tu croissance pour l'Église? » Jésus m'a dit « Veux-tu la puissance du Saint-Esprit? » Parce que très souvent, on arrive à Jésus, et on arrive un peu comme ces gens dans le passé, cette personne, je la vois encore, que j'ai aidée, et qui s'attend que pasteur Emmanuel fasse tout. Et puis on s'en va, je n'étais pas pasteur. Emmanuel, son bel ami, fasse tout pour lui. Donne la bouteille, fasse le déjeuner. Tu veux sandwich? Oh, pas de problème, je vais faire pour toi. Je conduis au travail. Il n'y a pas de problème, vous savez. On vit dans la génération des enfants qui ont été maternalisés par une maman hyper responsable. Maman fait tout. Elle fait le lit. Je regardais un documentaire et où est-ce qu'il y avait cette maman avec son enfant de 28 ans. Et maman, après que l'enfant prenait son bain, maman lui mettait de la poudre. Maman, à 28 ans. Come on. Laisse-le s'envoler, tu l'handicapes. Laisse-le s'en aller. Il a besoin de s'envoler. C'est comme si, OK, maman te choisit la chemise, maman. Wow! On a besoin, et en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin, c'est ça la réforme, d'accepter notre responsabilité. Et Jésus n'est pas comme ça. On croit, on pense que Jésus est comme ça, que c'est un Dieu qui vient dans ta vie et qui te maternalise. Hey, c'est pas pour rien qu'on chante « Père, je t'adore ». On ne dit pas « Mère ». Pourquoi? Jésus, c'est ton père. Il te laisse aller. Vas-y, pelte. Je veux te voir avec la machine. Allez, vas-y. C'est ton père. Il ne va pas te donner la bouteille. Il y en a qui aiment moins ça, mais c'est vrai. C'est pas moi qui ai la parole de Dieu. Lève-toi, prends ton lit. Lazare, sors. Jésus met une emphase sur ta volonté. Jésus est un gentleman. Il ne va jamais aller au-delà de ta volonté. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-ci. Le pouvoir de tout modifier souverainement est dans notre volonté. La volonté permet de grimper sur les cimes. Sans volonté, on reste au pied de la montagne. La volonté faible ou les volontés faibles se traduisent par des discours, mais les volontés fortes par des actes, comme dirait Gustave Le Bon. Ou nous voyons encore que le puissant de tous les leviers, ou le plus puissant de tous les leviers, de tous les leviers du monde, c'est la volonté. Montre-moi un homme de succès, je te montrerai un homme de volonté. Montre-moi une femme de succès, je te montrerai une femme qui a la volonté. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Machiavel. Alors, le malade répondit à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, « Les excuses, jusqu'où? Jusqu'où les excuses? » Vous allez dire qu'il est malade. Oui, oui, il est malade. Oui, mais j'ai vu des gens dans des circonstances difficiles dire non. Non, je n'accepte pas cette circonstance. Il faut que ça change. Cette semaine, il y a un colonel de la République démocratique du Congo qui est mort. Et cet homme, dans une armée qu'on disait une armée, vous savez, le pays, la République démocratique du Congo, j'y ai vécu, beaucoup de corruption. Beaucoup de problèmes, mais c'est un homme qui a décidé de marcher dans l'intégrité, dans un lieu où est-ce qu'il y a la corruption. C'est un homme qui est arrivé à organiser les gens, et au lieu de dire « on n'arrivera pas, on n'est pas capable, on n'a pas le budget, oh, qu'est-ce qu'on va faire? » Il a relevé certains jeunes avec lui, et avec des kalachnikovs, il a été capable de gagner la guerre, et toutes ces femmes qui étaient violées, c'est des millions, plus de 6 millions de morts, toutes ces femmes violées, il a été capable de les défendre. Il y a eu un coup contre lui qui a été fait. Il est mort, mais il est mort en se battant. Et moi, je me dis, si je vais mourir, je veux mourir, je vais être dans la bagarre. Je vais être là, je vais être dedans. Je ne vais pas être celui qui meurt puis qui est dans son salon. Va, tout le monde a les bonnes choses, pas moi. Non, je veux être celui qui va être face à l'ennemi. Et cet homme avait plein d'excuses. Il s'apitoyait sur soi. Et il dit, voilà, vous savez, l'eau bouge, mais j'ai personne pour m'emmener. Vous savez, dans la Bible, il y a ce paralytique qui a trouvé quatre amis, on a entendu ça ici, pour aller ouvrir le toit, entrer dans la maison. Il faut que tu sois bon, hein? Tu es paralytique. Tu trouves quatre amis. Et là, tu les motives à casser le toit de quelqu'un. Wow! C'est quelqu'un qui avait refusé sa situation. Il avait la volonté de s'en sortir. Dieu répond à la foi, mais pas à l'apitoiement. Et j'aimerais te dire que le Dieu de grâce peut agir malgré ton apitoiement, mais tu ne verras pas sa grâce. Tu ne vas pas comprendre sa grâce parce que tu vas être dans ton apitoiement. Et quand tu verras le miracle, tu vas rejeter le miracle. Tu vas écraser le miracle dans ta vie. Sa confiance était aux anges et aux bulles, pas en Dieu. Et cet homme avait besoin d'une réforme. Il avait besoin, au-delà du réveil que Jésus emmenait dans sa vie, il avait besoin d'un changement, d'un renouvellement de sa connaissance. Il avait besoin, en termes informatiques, que son hard drive soit nettoyé. Il avait besoin d'un clean-up, d'un formatage et d'un nouveau système de pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2014, en début d'année, formate ton disque. Formate ton disque. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne formates pas ton disque, tu vas vivre dans le passé. Jésus a dit « Je suis ». Je suis. Il n'a pas dit « J'étais ». Oui, même s'il était dans le passé, il est « Je suis ». Il est le Dieu du présent. Voulez-vous vraiment être guéri? Et si tu as des excuses, moi, j'aime toujours dire ceci. Noé a bu un verre de trop, mais il a été choisi. Abraham était trop vieux, il a été choisi. Isaac était un rêveur. Jacob était un menteur. Léa, et à chaque fois que je le dis, il y en a qui rient de Léa, mais riez pas Léa. Léa était laide. Joseph a été abusé. Moïse avait un problème de bégaiement. Il était bègue. Gédéon avait peur. Samson avait les cheveux trop longs et il était coureur de jupons. Rahab était prostituée. Jérémie et Timothée trop jeunes. David avait une liaison d'adultère et il était meurtrier. Élie était suicidaire. À un moment de sa vie, il a dit, « Seigneur, tue-moi, fais quelque chose, je ne suis plus capable. » Ésaïe prêchait nu. Jonas a couru de Dieu. Naomi était veuve. Job a fait faillite. Jean-Baptiste a mangé des insectes. Pierre a renié le Christ. Les disciples se sont endormis. Vous avez, la dernière fois, vous avez dit, « Ah, si Jésus était ici, je n'aurais jamais dormi, on aurait prié. » Les disciples ont dormi. Jésus était là. Ça veut dire, c'est possible de dormir avec Jésus là. Martha s'inquiétait. La Samaritaine a divorcé plus d'une fois. Zachée était trop petit. Paul était trop religieux. Timothée, lui, il avait des ulcères. Lazare était mort. Si tu as une excuse meilleure que Lazare, abandonne. Et Dieu, l'Esprit de Dieu m'a fait dire ce matin, si tu veux, Dieu peut. Si tu veux, Dieu peut. Et vous n'êtes pas le message. C'est une bonne nouvelle. Le message, c'est Jésus. Vous êtes juste le messager. Donc, le messager peut tomber en coup de route, mais le message reste le même. Tu n'es pas le message. Beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils sont le message. It's not about you, comme on dirait en bon anglais. C'est pas sur toi. Le film n'est pas sur toi. Le centre du film, c'est Jésus. Et quand tu réalises que le centre du film, c'est Jésus, tu dis, moi, en tant que messager, je peux trébucher, mais le héros est encore vivant. Le héros est encore là. Le héros survit et il va arriver jusqu'à la fin du casting. Oh, les gens devraient dire amen à ça. Et Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. So, il lui dit, veux-tu être guéri? La personne lui donne des excuses. Et j'aime Jésus, il ne va pas dans des longues explications. Il l'écoute chialer et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est ça la grâce de Dieu. Même dans ton chialage, Dieu te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il se lève, et il marche, il prend son lit. Il y a une expression anglophone qui est utilisée par un évangéliste qui est humoriste qui dit, lighten up and live. souris et vis. Et j'aime cet évangéliste parce que Ken Davis, qui parle souvent, il fait souvent des analogies, il a grandi dans une ferme, et il disait la chose suivante, on dit, on nous compare, nous, les êtres humains, à des brebis. Et lui, il a grandi dans la ferme, et il disait que les brebis, c'est pas intelligent. Il dit, on peut vous dire l'agneau de Dieu, puis on peut mettre toutes les belles choses. Dieu, lui, il est le bon berger, il est le roi des rois. Mais pour nous, les brebis, une brebis, ça suit les autres brebis. S'il y en a une qui va dans un trou, ils sont assez intelligents pour suivre la brebis qui s'est trompée et tomber tous dans le trou. Et quand tu réalises que tu es une brebis, tu réalises que tu as besoin de Jésus. Tu réalises que dans ton raisonnement, il y a des raisonnements qui sont des raisonnements de brebis. Et ici, nous sommes dans un contexte où cette brebis avait besoin de « lighten up and live ». D'oublier maintenant, « wow, je suis debout, hallelujah, je marche, oh! » Et de commencer à fonctionner. J'aime beaucoup cette image que nous allons voir dans la prochaine diapo. C'est Winnie the Pooh, pour nous qui avons eu des enfants, on n'a pas eu le choix, on a dû regarder ça. Et Winnie dit, « Oh, quel jour sommes-nous? » Et Piglet, le petit cochon, dit, « C'est aujourd'hui. » Winnie dit, « Fantastique! Aujourd'hui, c'est mon jour préféré! » C'est quand la dernière fois tu as dit, « Aujourd'hui, c'est ton jour préféré. » Aujourd'hui, arrête de vivre hier. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en Christ? C'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en Christ? Donc, tu es une nouvelle créature. Et il y a une suite à ceci. Les choses anciennes sont passées. Donc, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu es en Christ, hier, c'est passé. C'est fort, ça. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de gens voient ça juste à partir de la nouvelle naissance. Mais c'est tous les jours, ça. Tu te lèves le matin, je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quand tu retournes, in 1964, when I was a kid, in 1960, non, les choses anciennes sont passées. Respire. Ah, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu regardes la vie chaque matin avec cette perspective, peu à peu, tu vas voir les choses dans ta vie changer. Le défi, c'est de regarder la vie de cette manière-là. C'est tout un défi, parce que très souvent, l'homme préfère la souffrance qu'il connaît à la liberté qu'il ne connaît pas. Et Dieu aimerait te dire aujourd'hui, donne-moi cette possibilité. Donne-moi cette possibilité de te faire vivre cette liberté que tu ne connais pas. Nous allons aller dans le drame de cet homme. Et vous savez, la Bible est bonne et elle nous enseigne au travers des drames de certaines personnes. Je crois que ce texte était là pour enseigner aux disciples quelque chose, mais pour nous enseigner des années, plus de 2000 ans après quelque chose. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On dirait, alléluia, il est en train de marcher partout, il est heureux. Cet homme se retrouve dans un lieu. Il va se retrouver avec les pharisiens. Et la parole de Dieu dit ceci. Et quand Jean parle de cette manière, il est en train de nous dire dans Jean 5, 10, dans le prochain diapo, il est en train de nous dire pourquoi il a écrit tout ce qu'il a écrit. Voilà l'objet de ce passage. C'était un jour de sabbat. Là, maintenant, il va expliquer la problématique. Voici pourquoi je vous ai parlé de cette guérison. C'était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. »
Il me dépasse. Mais 2000 ans après, il y a encore des pharisiens. Quelqu'un arrive heureux, Dieu l'a touché. Tu sais pas, moi je marche avec Christ depuis 20 ans, mais j'ai vécu tellement d'intempéries. Tu vois comment je suis rendu comme un citron? Dans 5 ans, tu vas être un citron comme moi. Attends, ce Christ-là, vraiment, oh, je suis un raisin sec. Attends, tu vas être un popcorn. Et j'aimerais te dire quelque chose, qu'il y a des gens qui ne deviennent pas des popcorns. Il y a des gens qui ne deviennent pas des raisins secs. Et il y a des gens qui ont une joie qui est plus que des citrons. C'est Luc Dumont qui vient la semaine passée, qui me racontait cette histoire il y a quelques années. Il louait dans une église, puis il me disait, écoute, il dit, quand j'ai commencé le ministère, il disait, écoute, tu ne peux pas être un thermomètre. Il me disait, tu dois être un thermostat dans ta vie. Il dit, c'est toi qui dois changer la température. Il dit, j'étais dans un lieu, puis il y avait un monsieur, il dit, il avait une face comme un citron. Et tout le long, j'étais là, je te donne mon cœur. Et on sait que Luc Dumont, il acquit des beaux chants. Luc Dumont, quand il acquit des beaux chants, il sait vraiment mettre des mots un à côté de l'autre. Il était là, et Luc Dumont, c'est un homme passionné et tout ça. Mais il dit, il regardait le gars, puis ça lui donnait vraiment pas envie de sourire, même de chanter en avant, parce qu'il disait, ce gars, il a vraiment une face de citron. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme si l'Esprit de Dieu lui a dit, non, écoute, je ne suis pas un thermomètre, je suis un thermostat. Les circonstances, peut-être, ne sont pas bonnes. Il n'y avait peut-être pas tout ce qu'il avait, parce que lui, quand il voyage, des fois, il se retrouve dans des lieux où est-ce que peut-être l'équipement n'est pas aussi bon, et les gens ne sont pas aussi accueillants et tout ça. Mais il a continué. Et à la fin de son message, le citron s'est avancé en avant. Avec sa face de citron. Mais quand il a commencé à prier sur le citron a commencé à sourire. Ah! Et il a dit, quand le citron a souri, c'est toute l'église qui était à l'envers. Mais il y avait un autre citron. Une autre personne qui est venue dire, oh, ben, pasteur, là, les gens qui sont en joie là, comme ça, là, ça ne devrait pas être comme ça. Dans la Bible, c'est pas écrit que les gens devraient être trop de joie dans l'église. Là, c'est un désordre. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Que Dieu vient briser la religion. Dieu vient briser ta mauvaise humeur. Les jeunes filles danseront de joie. C'est écrit dans ta Bible. Jeunes et vieux vont chialer ensemble? Non! Se réjouiront ensemble. Réjouis-toi. C'est quand la dernière fois? Yes! Je m'en vais à l'église. Je vais être dans la présence de Dieu. Wouh! C'est quand la dernière fois que tu as été content? Content. J'étais dans ma salle de prière et Dieu se le sait avec nos responsabilités. Des fois, tu as le fardeau des responsabilités et tu es à genoux, tu pries, tu donnes ton cœur à Dieu et tous les soucis du monde, tous les soucis de ma vie venaient sur mes épaules. Et tout à coup, je me suis rappelé d'une parole de David qui a dit, « Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Renouvelle l'Esprit qui est en moi. Renouvelle l'Esprit qui est en moi. » Et j'ai pensé, au lieu de parler au Seigneur de mes problèmes, je vais lui demander le Saint-Esprit. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi. Et vous savez, quand vous priez et que vous choisissez un lieu secret, il y a quelque chose qui arrive et c'est toujours étrange. La distraction va toujours arriver. J'en reviens pas. J'étais seul à la maison, pas un enfant. Je dis, ah, moment, j'ai un moment. Mais je n'avais pas de moment. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Le téléphone a sonné. J'ai cherché mon téléphone, pris le téléphone parce que je me suis dit, ma femme est dehors, peut-être qu'elle peut avoir un problème d'auto. Et là, on commence à penser à tout ça. En tant qu'homme responsable, souvent, on pense que quand on n'est pas avec notre femme, c'est là qu'elle peut avoir un accident. Et je prends mon téléphone et c'était l'ophtalmologue qui me dit, ah, n'oublie pas, ne manque pas ton rendez-vous. OK, il n'y a pas de problème. So, je retourne dans la salle de prière. Je m'en vais, je vais chercher le cœur de Dieu. Et un son que je n'ai jamais entendu dans la maison avant. Alors j'étais là, je dis, non, cette fois-ci, je ne vais pas sortir d'ici. Je reste, je prie, mais là, ça commence vraiment à me déranger. Je dis, mais c'est quoi ce son-là? C'est quoi? C'est bizarre. Je sors de la salle parce que finalement, je suis curieux. Et en sortant, je réalise que ma petite fille, elle avait joué avec son iPod et elle avait fait sonner son iPod comme il y avait un genre de compteur et il y a un son bizarre qui sortait de là. Je referme ça, je dis, wow! Chaque fois que tu vas chercher la présence de Dieu, il y a la distraction. Mais il faut que c'est un combat, c'est la volonté. Dieu cherche notre volonté. Sans ta volonté, tu ne pourras pas aller plus creux. Est-ce que j'ai reçu ce que je devais recevoir de Dieu? Oui! Mais si tu ne vas pas chercher encore plus creux, tu ne recevras pas tout ce que Dieu a pour toi. Et ce que Dieu a pour toi, premièrement, c'est la paix. C'est la paix. Cette paix que aucune personne ne peut te donner. Dieu peut te donner la paix dans la pire des circonstances de ta vie. Mais il faut aller le chercher. Cherche. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume. C'était un jour de sabbat. Et ils lui ont dit, non, il ne t'est pas permis de porter ton lit. La clé de l'incident. Et c'est ici qu'on voit ici, réveil versus réforme. Les pharisiens étaient réveillés. Ils savaient c'était quoi la loi. Ils savaient c'était quoi l'Église. Ils savaient qu'est-ce qu'on doit respecter. Ils avaient les lois dans la tête. Cet homme était réveillé, il était guéri. Il venait de vivre un réveil. Alléluia! Oh, mes pieds! Et il pouvait bondir. Mais cet homme n'était pas réformé. Les deux sont importants. Il faut être réveillé. Si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas travailler. Tu as besoin du réveil, mais tu as besoin de la réforme. La réforme va t'aider de faire face à la persécution. Elle va t'aider à faire face aux situations de discorde. Il y a une discorde majeure entre Jésus et l'establishment, entre Jésus et le monde religieux. Et nous le voyons, vous pouvez par vous-même aller dans Matthieu 12, 1, 4, dans Marc 2, 23, 3, dans Luc 6, 1, 11, dans Jean 7, 21. Il y a des passages où est-ce qu'on voit que Jésus, on dirait qu'il provoque l'establishment. On dirait que Jésus, il a un appel pour leur dire, écoutez, repentez-vous, écoutez, vous n'êtes pas dans les bonnes voies. Écoutez, c'est ma maison est appelée une maison de prière. Écoutez, avant Abraham, je suis. Mais cette maison-là a refusé. A refusé, pourquoi? Parce qu'ils aimaient le pouvoir qu'ils avaient. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, il y a juste une chose qui empêche les gens de venir dans ma présence, c'est le pouvoir qu'ils aiment. Tu aimes contrôler ta vie et tu aimes contrôler les autres. Et si tu aimes contrôler ta vie et tu aimes contrôler les autres, tu vas avoir du mal avec Jésus. Parce que Jésus n'est pas appelé premier ministre. Jésus est appelé le roi de ta vie. Roi. Roi veut dire que quand il rentre dans l'auto avec toi, tu ne conduis pas. C'est lui qui conduit. C'est ça le roi. Alors, il y a des gens qui ont du mal. Jésus, moi, je sais conduire. Et Jésus te regarde et te dit, conduis. Et là, tu frappes les poteaux. Tu sors dans la neige. Et Jésus est là, il te regarde parce que c'est un gentleman. Jusqu'à ce que tu vas réaliser, prends les clés, tu connais le chemin. Prends les clés, tu connais le chemin. Jésus confronte le simulacre de vie spirituelle. Jésus confronte les religieux. Jésus confronte notre manière de penser. En 2014, Jésus nous confronte. Il va confronter notre manière de faire. Comment nous faisons dans cette église? Il va confronter notre manière de penser, notre manière de prier. Nous allons dans un jeûne et prière et peut-être tu te dis, oh, 3 jours, c'est trop. Pourquoi 3 jours? Ça devrait être 2 jours. Oh, moi, après 3 jours, je suis pas capable. Jésus te confronte. Tu es là. Et Jésus te demande d'avoir plus de... Si tu n'es pas flexible, j'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, 2014, tu deviens flexible. Tu deviens flexible. Pourquoi? Parce que Jésus veut faire une œuvre merveilleuse en toi. Ce n'est pas pour l'Église. Moi, j'ai compris que la croissance de l'Église a beaucoup à voir avec ta croissance personnelle. Vois une Église qui est en croissance, tu vas voir des gens dans l'Église, même qui vivent des bénédictions. Pourquoi? Parce que quand Dieu est dans un lieu, mais il y a des choses qui arrivent extraordinaires. L'Église est la chose la plus belle au monde. La plus belle au monde. Mais pour qu'elle arrive, les gens doivent être flexibles. Les gens doivent dire, oh, Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je ne connais pas tout. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je viens dans ta présence, Seigneur, fais de quoi? Même une partie de la Mishnah. Et la Mishnah, c'est comme nos commentaires bibliques, étaient consacrés sur le sabbat. Et on peut voir dans la Bible, dans Exode 31, 12, quand on parle du sabbat, Dieu a dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui profanera le sabbat sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de mon peuple. » Exode 35, 2 nous dit, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. » Maintenant, ici, on ne disait pas qu'est-ce que tu pouvais faire et qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire. Est-ce que lever ton matelas, c'est un travail? Et ça, c'est des choses qui ont été ajoutées dans la Mishnah. Il semblait que même faire un nœud le jour du sabbat, pour certains, c'était grave. Et l'Église n'était plus concentrée sur Jésus, mais l'Église était concentrée sur qu'est-ce que le chrétien, l'autre chrétien fait. Oh, aujourd'hui, regarde la personne qui est là dans la louange, elle est comme ça. Oh, la personne qui m'a accueilli n'est pas bien habillée. Oh, voilà, oh! On est tous là en train de pouvoir regarder, on regarde les uns les autres pendant que quand on vient dans la présence de Dieu, tu viens regarder le roi des rois. Et Jésus m'a dit que l'Église Nouvel Espoir, c'est une Église qui est appelée en 2014 à regarder Dieu. Tu viens à l'Église, tu ne viens pas pour regarder la chaise vide à côté de toi, tu viens pour regarder Dieu. Et en regardant Dieu, la chaise va se remplir.
Tu viens à l'église, ce n'est pas pour regarder les manquements qui sont autour de toi, mais c'est pour regarder à Dieu, parce qu'en regardant Dieu, c'est là que Dieu fait le changement. Tu es dans ta maison, tu regardes à Dieu, tu ne regardes pas aux circonstances de ta vie, tu ne regardes pas aux mauvaises nouvelles que tu reçois, tu ne regardes pas aux mauvais emails que tu es en train de vérifier. Chaque 3 heures, chaque journée, tu vérifies tes emails 50 fois. Dieu te dit, vérifie-les une fois. Tu n'es pas aussi important que lui. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et si ce message est en train de te déranger, c'est vraiment pour toi. J'aimerais te dire ce matin, c'est vraiment pour toi. J'ai été dans la prière et j'aimerais te dire que si ce matin, ce message te dérange, l'Esprit de Dieu veut faire des grandes œuvres en toi. Il savait tout cela, mais il n'avait pas compris quelque chose que Karl Marx dira. Vous allez dire, « Pasteur, tu parles de Karl Marx, tu ne sais pas que Karl Marx ne croyait pas en Dieu. » Mais je vais te dire quelque chose, qu'il y a des gens qui des fois disent des vérités, même dans leur ignorance. Karl Marx a dit, « La religion est l'opium du peuple. » La religion de ces pharisiens était rendue leur opium. Pourquoi? Parce que, comme Marx le disait, leur religion était une illusion, un monde fantastique produit par leur imaginaire. Ils pensaient être sauvés par le sabbat, dans lequel tous ces pharisiens allaient se réfugier de leur propre misère, oublier leur misère par des règles, oublier leur misère en regardant ce que l'autre a fait, oublier leur misère en pensant que je suis meilleur que l'autre. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que tu oublies ta misère, Dieu veut que tu emmènes ta misère auprès de lui. Tu emmènes ta misère auprès de lui. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Moi, je te dis aujourd'hui que l'Église Nouvel Espoir, ce n'est pas une religion, c'est une révolution. Le christianisme, c'est une révolution. Quand Jésus est venu, il a dérangé. Et aujourd'hui encore, en 2014, nous allons déranger. Tu es appelé à déranger. Si tu déranges personne aujourd'hui, tu ne comprends pas Jésus encore. Jésus est venu dans ce monde et il a dérangé. Il a dérangé. Il a dérangé sa société, il a dérangé la politique, il a dérangé les religieux, mais il a dérangé afin d'arranger. Il n'a pas dérangé juste pour déranger. Parce que quand Dieu se révèle, ce n'est pas une religion. Dieu, le Tout-Puissant, qui se révèle. Ce n'est pas une petite chose. Quand Dieu vient et se révèle à moi, c'est une révolution. Le propriétaire des choses vient dire, « Vois ça, c'est à moi. » Ces choses ici, c'est à moi. Vous voulez que je vous montre comment les poissons fonctionnent? Pierre, va vers le poisson, va pêcher et on va prendre notre argent de taxe. Pierre va pêcher, revient, l'argent sort de la bouche du poisson. Je vais vous dire que ce jour-là, Pierre s'est posé des questions. Et, ah! Or, les poissons bouffent l'argent. Mais on peut faire une bonne business avec ça. Jésus, si tu nous dis tous les poissons qui ont l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Dieu de l'univers a les clés de toutes choses. Il arrive, et ses disciples sont sur le bateau, et il y a la tempête, et il voit le premier surfeur au monde. Le premier surfeur au monde s'appelle Jésus-Christ. Pas de planche. Il est en train de surfer, et il marche. Et il se promène. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'on dit que Jésus allait comme s'ils allaient les passer. C'est comme si Jésus, « Ah, salut! Ça va? » Et « Ah, oh, Jésus, Jésus! » Et Pierre prend le courage. Et Pierre est le deuxième surfeur du monde. Il a surfé, il est sorti, il a fait 2 pas et il a réalisé que si tu n'as pas le ballon, tu tombes. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance au Créateur qui est venu avec ses clés. La peur de la religion, c'est la peur du rejet. La religion, c'est un système des hommes. J'ai peur d'être rejeté. Cet homme avait peur du rejet. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Prends ton lit et marche. C'est pas moi. C'est pas ma faute. C'est pas lui. C'est Jésus. » Oui, les chrétiens sont un peu bizarres. Je ne suis pas comme les autres chrétiens. Moi, j'aimerais te dire, je suis comme les autres chrétiens. Même s'il y en a qui nous représentent mal. Pourquoi c'est Christ qui est parfait? C'est pas moi qui suis appelé à être parfait. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ ne m'a pas demandé de marcher dans la perfection, il m'a demandé de marcher dans l'humilité, de marcher sous sa couverture. Mais tu te protèges de quoi? Tu n'es pas Christ. Mais ce chrétien, il a eu peur de l'establishment. Oh, est-ce que tu ressembles aux autres chrétiens? Vous les chrétiens, là, comment ça fonctionne? Il y a un proverbe français qui dit, « Qui a peur des feuilles, n'aille au bois. » Celui qui a peur des feuilles ne va pas au bois. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'en tant que chrétien, si tu as peur et tu as toujours peur, tu n'iras jamais de l'avant. Tu ne voudras jamais gagner encore plus. Et Mark Twain va encore plus loin, il dit « Le courage est la résistance à la peur, la maîtrise de la peur, non pas l'absence de la peur. » Cet homme, en termes modernes, a été, pour ceux qui ont vu le film « La guerre des étoiles », un peu comme Anakin Skywalker, il s'est laissé avoir par la peur. Et cette peur, il a essayé de la contrôler pour avoir ce pouvoir. Cet homme qui avait bien commencé dans ce film finit par être la représentation du mal. Et plusieurs personnes commencent bien, mais par la peur, s'arrêtent. La peur d'échouer, la peur de ne pas être parfait, la peur de ne pas avoir assez, la peur... Quand Dieu me demande de prier pour un miracle, il me dit pas que moi, je garantis le miracle. Je prie pour le miracle parce que Dieu a demandé qu'on prie pour le miracle. Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit? » Et là, tout à coup, il réalise, mais celui qui avait été guéri, il réalise que Jésus a disparu et je ne sais pas son nom. Il m'a guéri, je me suis levé, mais j'ai oublié ce détail. J'ai oublié ce détail important. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, « Rappelle-toi, fais comme Pasteur Miriam nous a dit aujourd'hui. » Jacob s'est trouvé dans un lieu, il a dit, « Seigneur, je te promets, si tu me gardes, si tu me bénis, je vais donner ma dîme. » Il y a des lieux péniels, des lieux dans ta vie où est-ce que tu dois te rappeler et dire, « Voici ce que ce Dieu a fait pour moi. Voici, je connais qui m'a sauvé. Je vois celui qui a changé mes circonstances et je lui remets ma vie. » Cet homme n'a pas fait cela et il nous enseigne ces deux vérités. Tout ce message, je le conclurai sur ces deux vérités. La première vérité, c'est si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous voulez rêver? Réveillez-vous. Il y a plusieurs personnes qui rêvent les yeux fermés. Réveillez-vous. Vous voulez plus de la puissance de Dieu? Priez. Vous voulez la guérison? Allez chercher le Saint-Esprit. Vous voulez une transformation dans Ottawa? Commencez par demander qu'est-ce que je peux faire dans l'Église. Vous voulez voir une équipe de louanges, on va investir cette année, on va investir au maximum. Cette équipe de louanges va être une des meilleures équipes de la région. Pourquoi? On va investir du temps, on va investir tout ce que nous avons afin de voir Dieu agir. Mais on va faire quelque chose. Réveille-toi! Arrête de dormir. Réveille-toi! L'Esprit de Dieu te dit, réveille-toi. Oh, si Jésus venait, Jésus ne fera jamais tout pour toi. Et si tu attends que Jésus vienne pendant que tu dors, tu es de ceux qui vont avoir peur quand Jésus va venir ici. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus n'a pas fait affaire avec des gens qui dormaient. Tu veux changer les circonstances de ta vie? Réveille-toi. Tu veux du boulot? Réveille-toi. Tu veux avoir un diplôme? Réveille-toi. Tu veux travailler? Réveille-toi. Change les habitudes. On est en début d'année. C'est beau, écris toutes les résolutions que tu veux. Je peux prier pour la bénédiction sur toi. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. C'est ta volonté. Ta volonté va faire toutes les différences, la différence. Des fois, je ris parce que l'être humain, vraiment, on est des brebis. Il y a plusieurs lieux où est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent, c'est très bien, à la fin de l'année, puis on prie, « Ah, Seigneur, l'année 2014 va être une année de prospérité, de bénédiction dans vos vies et tout ça. » Je ne veux pas être moqueur, là. Mais si tu ne changes pas tes habitudes, il n'y a rien qui va changer. Tu veux que quelque chose change? Change quelque chose dans ta vie. Change tes habitudes. Pratique. Si tu veux devenir un meilleur joueur dans une pratique, mon fils voulait devenir un papa, je veux jouer au drum. Écoute, mon ami, il sait, moi là, c'est le vieux système. Hein? Moi, mon père m'a appris très jeune, la maison n'est pas une démocratie, c'est une dictature. je l'apprends très tôt. Écoute, ils peuvent faire tous les systèmes qu'ils veulent, mais je vais te dire quelque chose, tu vas devoir avoir un cours de musique. Tu vas dire, oh, il est donc bien dur le papa. Oui, tous les papas durs ont eu des enfants assez bien disciplinés. Une structure. On veut une structure. Pourquoi je veux qu'il soit un champion? Je veux qu'il arrive plus loin que moi. Je l'écoute, mais en même temps, je dis, écoute, tu as besoin d'un coach. Tout le monde était content quand Pat Byrne était coach. Pat Byrne, mais Pat Byrne, tu ne voulais pas jouer pour Pat Byrne. Pourquoi? Parce que les joueurs qui jouaient pour Pat Byrne disaient que Pat pouvait décider, écoute, tu ne vas pas rentrer, tu ne vas pas jouer aujourd'hui. Pourtant, les équipes que Pat a eues sous son leadership ont souvent été des équipes assez spectaculaires. Regardez dans le sport, les gens qui sont capables d'effectuer de grands changements, c'est des gens disciplinés. Disciplinés. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Alors réveille-toi. Réveille-toi. Mais ça ne finit pas là. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. C'est comme si Jésus aurait pu disparaître. Jésus savait tout. Il savait que cette personne le cherchait pour reconnaître son nom et pour aller le dire aux pharisiens. Mais Jésus le trouve. En d'autres mots, Jésus va faire des miracles dans ta vie. Jésus va venir te trouver. Mais c'est à toi de garder. Garder la semence qui est dans ton cœur. Ce n'est pas à Jésus de garder la semence. La semence, elle est à toi. Tu as une responsabilité. Le réveil est à lui. La réforme est à toi. Tu veux grandir? La réforme est à toi. Et en conclusion, on voit ici, « Voici, tu as été guéri, ne pèche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. » Nous savons que Jésus a parlé déjà dans d'autres passages, quand on a vu des gens qui étaient malades, Jésus a dit « Ils n'ont pas été malades à cause de leur père, ils n'ont pas été malades à cause du péché de leur mère, mais ils ont été malades afin que moi, Dieu, je puisse révéler ma gloire. » Nous savons que Jésus a très clairement parlé sur ces incidences-là. Mais c'est comme si Jésus veut lui dire quelque chose de plus profond. Au-delà de ta maladie, au-delà de tes jambes, au-delà de ce qui affecte tes circonstances, il y a quelque chose de plus grand qui est la vie éternelle. C'est quelque chose de pire qui peut t'arriver. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton âme. Et si tu perds ton âme, qui peut te redonner ton âme? Et cet homme est face à cette vérité. Mais cet homme... Jean veut nous enseigner quelque chose. Cet homme n'a pas écouté. Cet homme s'en alla. Et il faut que vous, dans la culture juive, il faut que vous compreniez quelque chose. Quelqu'un de malade, c'est quelqu'un de maudit. C'est quelqu'un... Vous savez, même dans le milieu aujourd'hui ecclésiastique, quand on a des problèmes, quand on vit des problèmes, j'ai vécu certains problèmes dans ma vie et j'ai entendu certains chrétiens, certaines personnes dire, « Ah, lui vit des problèmes. Oh, il a du péché, hein? Il a du... Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? » Oh, et on commence à te décortiquer, à voir. Pourquoi? Parce que l'homme cherche à détruire. L'homme cherche, la parole de Dieu dans Jean dit que Jésus n'était pas impressionné quand on lui disait, écoute, tu es bon, tu es un enseignant, parce que Jésus savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Jésus n'a jamais été déçu par un homme. Pourquoi? Parce qu'il savait que la même personne qui dit, oh, tu es bon enseignant, 2-3 mois après, quand tu as des problèmes, c'est la même personne qui t'abandonne. Et l'Esprit de Dieu est venu vers moi et m'a dit ceci au travers de ce passage. Fais attention. Fais attention. Fais attention à comment tu traites Jésus, mais fais attention à comment on se traite les uns les autres. Il y a des gens qui vont tomber ici. Il y a des gens qui vont avoir des défis. Il y a des gens qui vont vivre des situations néfastes. On est l'Église de Dieu. Je n'ai jamais vu un hôpital qui soigne quelqu'un qui s'est cassé la jambe. La personne va au travail, elle se casse les deux jambes. On dit, ah, tu es revenu avec les deux jambes, on va te casser les bras avec. L'hôpital serait fermé. Cette Église est un hôpital. Elle est appelée depuis son départ. Ça s'appelle Nouvel Espoir. Ça veut dire quoi? Si tu as perdu ton espoir, tu rentres ici, tu as nouveau. Nouvel Espoir. Comme on dirait en bon africain, ofélé. Ça veut dire gratuit. Tu as quelque chose, ce que tu as perdu, Dieu te donne gratuitement. Nouvel espoir. Tu rentres dans ce lieu ici, tu viens briser, sache quelque chose, même si on t'a terrassé, même si on t'a détruit dans la vie, il y a quelque chose que tu peux recevoir dans ce lieu. Ce lieu est le lieu du nouvel espoir. Ce lieu est le lieu où est-ce que tu es transformé pour transformer. Et quand tu sors d'ici, tu reçois le nouvel espoir, pas afin de frapper d'autres. Tu reçois le nouvel espoir afin de donner le nouvel espoir. Transformer pour transformer. En 2014, nous restons dans la vision. Nous restons dans la vision. Nous sommes focus, comme le dirait un de mes amis pasteurs. Nous sommes focalisés vers cette vision. Et cet homme qui a été guéri s'en alla. Il s'en va vers ses bourreaux, vers des gens qui disent qu'il est maudit. Il retourne vers eux. Pourquoi? L'homme recherche le pouvoir. Qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait ces gens de pouvoir. Tu recherches l'attention des gens de pouvoir au lieu de rechercher l'attention des gens qui t'aiment. Dieu te dit aujourd'hui, il y a des gens qui t'aiment, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment. Pourquoi recherches-tu tant l'attention des gens qui ne t'aiment pas? cet homme recherche l'attention des gens qui ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir. Il dit, si je peux devenir leur ami, je vais avoir un peu de pouvoir. Il a soif du pouvoir. Trop de personnes, trop d'églises, trop de familles meurent pour l'amour du pouvoir. Mais sache quelque chose, ils ne t'ont pas aimé avant, ils ne t'aimeront pas plus après. Et Jésus savait cela. Il rentre dans leur présence, il leur dit, écoutez, cet homme-là qui m'a guéri s'appelle Jésus. Écoute, tu étais au sol. Puis entre moi et vous, moi je sais, si j'aurais été malade, l'eau bougeait comme ça, croyez-moi, je me serais mis au bord de cette piscine-là. J'aurais poussé les autres paralytiques, je serais resté là même 3 jours. Je suis vraiment sérieux là. Comme lui, c'est vrai, on ne veut pas l'insulter, mais je me serais battu pour que quand l'eau bouge là, hey, pousse-toi de là. Parce que j'ai quand même la force dans les mains. Même si je n'ai pas mes jambes, j'ai la force dans mes mains, puis je vais te pousser. Pourquoi? Parce que je veux la bénédiction. Je veux la bénédiction. J'aime ce texte dans la Bible de Jacob qui sort. On dit que Jacob, quand il est sorti du Saint-Sébastien, il a pris le pied de son frère. Il a dit, c'est moi qui sors le premier. Et il a manqué juste comme ça. Et c'est comme, Dieu recherche des gens comme ça. Sois passionné pour la vie. La vie est faite pour les champions. La vie est faite pour les... D'ailleurs, tu es un champion. Mais on n'ira pas dans toute la biologie. Mais tu es un champion. Si tu es ici ce matin, tu es un champion, tu es une championne. Tu as saisi la vie. Dès ta naissance, la biologie fait que tu es le champion. Tu iras étudier la biologie et tu trouveras pourquoi. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alors ici, en conclusion, je te laisse avec ceci. Le réveil est un acte de grâce. Mais la réforme est notre réponse au réveil. La réponse au réveil, c'est la réforme. Et cette année, nous sommes réveillés. Nous avons avancé. Jésus nous a réveillés, mais Jésus veut nous réformer. Jésus veut nous transformer. Jésus veut changer notre manière de penser. Nous allons voir les choses comme Dieu voit. Et pour voir les choses comme Dieu voit, il faut être dans sa présence. Jésus ne donne pas une carte et te laisse aller. Jésus te dit, viens dans ma présence et je te donne ce qui est nécessaire. Je te donne la manne qui est nécessaire pour aujourd'hui. Alors, il va falloir aller tous les jours chercher le cœur de Jésus pour notre famille, pour notre travail, pour nos circonstances, pour nos problèmes. Il va falloir aller se recharger à la batterie de Jésus. Est-ce que tu es prêt? C'est excitant. C'est vraiment une année excitante. 2014 est une année excitante. Le psaume 16, pour ceux qui ont leur parole, et Dieu est juste en train de me donner, le psaume 16 au verset 3, dit ceci. Tu dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. L'objet de toute notre affection étant l'Éternel. Quel que soit ton rôle, quel que soit où est-ce que tu es présentement, quel que soit tes circonstances, quel que soit... peut-être ta position dans la société, j'aimerais te dire quelque chose, que l'objet de toute notre affection, c'est l'Éternel. On a chanté tout à l'heure, « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. » Et on va avancer comme une église. Être réformé, c'est réaliser qu'au-delà de nos circonstances, il vit. Je n'ai rien à craindre. Le paralytique a oublié qu'il vit. Il a oublié qui l'a guéri. Et s'il avait réalisé, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à craindre ces pharisiens qu'ils sont. Ils n'ont pas pu m'apporter la guérison. Cet homme m'a apporté la guérison. Je ne sais pas qui il est, mais j'aimerais te dire quelque chose. Ce matin, j'étais paralytique. Et il y a un paralytique qui a dit cela aux pharisiens. Je ne sais pas qui il est. Je ne comprends pas par quelle puissance il a fait ce qu'il a fait, mais j'aimerais te dire quelque chose. J'avais un problème dans ma vie et ce soir, je n'ai plus de problème parce qu'il est vivant. Ce paralytique a décidé, au lieu de se plaindre. Qu'est-ce que tu décides en ce début d'année? Nous allons aller dans le jeûne, dans la prière, mais avant cela, nous allons recommander nos vies, recommander notre sort à l'Éternel. Ah, Seigneur, j'ai besoin d'une réforme, besoin d'une portion de ta vie. J'aimerais t'inviter ce matin à t'avancer. Je vais prier pour toi, personnellement. Et je crois que l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Tu vas recevoir la charge dont tu as besoin, la charge électrique dont tu as besoin pour commencer cette année.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Ennis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B 1-844-254-C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.